Pour ceux qui ont eu l'expérience du mariage, il est bien évident que les rapports d'un époux et d'une épouse après le mariage sont tout à fait autres que qu'avant le mariage, que quand on arrive. C'est un autre monde. Je parle vraiment pour des gens normaux. C'est-à-dire, quand ils sont fiancés et pas mariés. Et quand ils sont mariés et pas fiancés. Vous avez compris ce que je veux dire? Eh bien, c'est tout à fait autre. Bien. Alors, autant les fiançailles, il y a évidemment, liberté absolue. C'est librement qu'on s'engage. On se donne sa foi. Alors, ce qui est arrivé au Sinaï, il y a eu le temps des fiançailles. Alors, Dieu a dit, ah, vous êtes fiancé? Eh bien, très bien, on va vous marier. Et le mariage, c'est kfiat harkit. Voilà son problème. Alors, vous voyez, quand vous citez le Midrashim, réfléchissez bien avant. Le Midrash que j'ai cité sur le fait que Dieu propose la Torah aux nations n'est pas du tout contradictoire avec celui-là. Hein? Mais le Midrash explique, avant que finalement de s'adresser à Israël pour la Torah au Sinaï, Dieu a fait le tour des nations. Le Midrash met en évidence les familles de la terre proches d'Israël parce qu'elles sont les anciennes familles de la famille d'Abraham. Hachem, Misina, Ibar, Bezalach, Misaïr, Lamo, Firmar, Paran, Mahon. Et puis, la question que j'ai posée, la difficulté sur la Gemara de Avodah Zarah, c'est Dieu savait très bien que les Goïm, ce n'est pas Israël, qu'ils n'ont pas la catégorie d'Atshuva, donc ils ne peuvent pas recevoir la Torah, ils ne peuvent pas confier leur sort à ce risque qu'à la première faute, ils sont damnés, puisqu'ils ne maîtrisent pas la catégorie de l'Atshuva. Ils ont peur de la loi. Vous voyez pourquoi la loi chez les Goïm a un tout autre sens qu'en Israël. La loi en Israël, Torah, c'est la clause du salut. Alors pour les Goïm, ce n'est pas du tout ça la clause du salut. C'est des stratégies religieuses, en général magiques par rapport à notre conscience hébraïque, qu'à avoir le christianisme. Par quelle stratégie magique les chrétiens sont sauvés? Une stratégie d'ailleurs épouvantable. Il faut communier avec les plus grands crimes qu'il puisse y avoir dans le monde. Un père qui tue son fils, et quel père et quel fils, okay? Dieu le Père et Israël. Et je sais pas, vous voyez le mythe qu'ils ont inventé là. Okay? Et tout ça par impossibilité d'admettre la tradition juive normale, que c'est par la Torah qu'on est sauvé. Pourquoi? Parce qu'il manque la catégorie de la Shuva. La notion de la loi chez les Goïm existe, elle est importante. Mais c'est là, le derechet en hébreu, c'est la politesse dans le sens grec, la conduite dans la police, la ville, dans la cité. C'est la civilité, la convivialité, le derechet, c'est ça la loi chez les Goïm. Les normes, norma en latin, nomos en grec, ça veut dire les coutumes érigées en légalité. Alors que pour Israël, la Torah, c'est la loi révélée qui est la volonté du Créateur pour le salut de la créature. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme grande différence entre Israël et l'Égoïm dans ce problème? La catégorie de la Tchouba. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est pourquoi je vais vous mettre en évidence ce verset et la citation du Yerushalmi. Lorsque Moïse entend que le vidouille est possible, alors il chante Mizmor l'Etoda. Ça veut dire qu'il y a un chidouche qui se passe dans le monde à ce niveau. Voilà. Est-ce que c'est clair sur ce premier point? Je vais vous citer maintenant. Je vous parlais tout à l'heure, s'il reste du temps, de cela. Il va y avoir une rencontre historique vendredi matin à Yad Vashem. Il y a, pour la première fois de l'histoire, un groupe de chrétiens, de toutes les confessions d'ailleurs chrétiennes, va venir à Yad Vashem demander pardon, et ils vont d'ailleurs jeûner toute la journée du Kippour, demander pardon pour les péchés de la chrétienté vis-à-vis du peuple juif. C'est la première fois que c'est arrivé. Et alors je vais leur faire un cours sur la Tchouva. Qu'est-ce qu'ils vont entendre? mais je vous en parlerai à la fin. Alors, il y a un psaume qui est très important dans la liturgie de la Tchouva, c'est le psaume 51 de Nun Aleph. Et dans ce psaume, il y a en particulier le verset de Adonai Sfatai Titor Vieit Yivatecha. C'est un psaume qui se relie à notre problème. Et il y a le verset suivant, qui est le verset 15. Alameda Peshaim Derachecha Vechataim Elecha Yashu. Je commence par le verset 13. que ce soit bien clair. En tout cas, notez le verset clair. Et voilà, dans ce psaume, voilà ce que dit David. Ne me renvoie pas de devant toi. En postulat, du contexte, David avait fait une faute. David avait fait une faute, et il dit, d'ailleurs dans les versets précédents, Lecha levadecha hatati, ve'a benecha asiti, nemantiza bidvarecha, tiske beshoptecha. Attendez, je cherche un autre verset. Ou alors c'est plus loin, mais c'est un verset qu'il faudrait que je... Voilà. C'est juste le verset 18. Kilo tarpot zevar ve'etena, ola lo tirse. Car tu n'agréerais pas un sacrifice, quand bien même je le ferais, un holocauste, tu ne l'agréerais pas. Ça veut dire, David, dans un cas où le sacrifice est impossible. Alors il demande le pardon par la tchoua. Là, il y a un problème très précis. S'il s'agit d'une faute volontaire, le sacrifice n'est pas efficace. Il faut qu'il y ait tchoua. Et ensuite, il y a expiation. Mais c'est le sacrifice à l'échelle collective, celui que le prêtre ou le grand prêtre fait pour l'ensemble de la collectivité, expie les fautes qui ne sont pas des fautes expressément voulues, des fautes volontaires, il expie les fautes involontaires. Vous vous rappelez de cela? Donc, eh bien, au verset donc 16, non, déjà le verset 13, Al-Tishlechi Melefanecha, ne me renvoie pas de devant toi, Veruach Kotchecha Atikar Mimeni, ne reprends pas de moi ton esprit de sainteté, Roach Kodesh Lavekite, Ashivali Sesor Nishecha, rends-moi la joie de ton salut, Veruach Nediva Tismecheni, et gratifie-moi de l'inspiration généreuse. Et voilà notre verset. Alameda Poshaim Derachecha. J'enseignerai aux fauteurs tes voies, tes conduites, les Hataïm et ceux qui font des fautes et les Chayashuvu feront Shuvah vers toi. Tous les commentateurs sur ce verset l'expliquent de cette manière. Le péché de David est rendu public afin que l'on sache que la faute de l'individu peut être pardonnée. Alors ça veut dire qu'il y a un enseignement qui met en évidence que le monde entier a besoin de savoir que la faute de l'individu peut être pardonnée. Et ça se rattache à ce qu'on vient d'apprendre tout à l'heure. Il y a un chidouche dans l'histoire de la révélation de la Torah. Il faut que l'humanité apprenne que la faute peut être pardonnée, que la tchoua peut être efficace. C'est ce que dit David. Pardonne-moi pour que j'en témoigne vis-à-vis des pécheurs, alors ceux qui font des fautes feront repentir. Pourquoi ils ne faisaient pas repentir? Parce que ça leur était impensable, impossible, invraisemblable. Est-ce que c'est bien clair? Je voudrais te faire une petite parenthèse là-dessus. De la même manière, dans cette même Gemara, dans la Gemara Shabbat, si je vous cite là, que la faute de la génération du désert a été dévoilée pour que le monde entier sache que la faute d'une collectivité peut être pardonnée. Et la faute de David a été dévoilée pour que le monde entier sache que la faute de l'individu peut être pardonnée. Nous sommes tellement habitués à cette évidence, la faute peut être pardonnée, la preuve, liturgie du jour de Kippour, tout ce que vous voudrez, parce qu'on a 4000 ans d'éducation biblique, qu'on ne perçoit plus ce chidouche que le Talmud de Jérusalem avait enseigné tout à l'heure. Quand Moïse a entendu qu'on peut se confesser, il a chanté des actions de grâce. Ça veut dire, enfin, on peut recevoir la Torah. Vous avez compris le problème? Et je vous avais indiqué, je voulais ouvrir une parenthèse dans la parenthèse, mais ça m'échappe. De quoi je parlais à ce moment-là? Et oui, le Talmud dit... La génération du désert n'était pas apte à cette faute. Pourquoi l'a-t-elle faite? Et alors c'est là qu'est l'étude, pourquoi l'a-t-elle faite? Ou bien pourquoi la Torah révélait qu'elle l'a faite? C'est pour qu'on apprenne que même si une collectivité faute, elle peut être pardonnée. De la même manière, David n'était pas voué à une faute pareille. David, c'est le grand sadique, et invraisemblable que David fasse une faute pareille. Et pourquoi de nouveau la même étude? Pourquoi il l'a faite? Pourquoi la Torah nous a appris qu'il l'a faite? C'est pour qu'on apprenne que lorsque l'individu fait une faute, il peut être pardonné. Alors ce que je voulais ajouter sur ce point, c'est qu'il y a vraiment là un chidouche de l'enseignement de la Torah, c'est accroché une minute sur ce verset où il y a le mot « Veit Vada ». C'est clair jusque-là? Top. C'est le premier point que je voulais dire. Et personne ne sait quelle faute il a faite. Je vais raconter un midrash là-dessus. Tout le monde croit qu'il sait. Tout le monde croit qu'il sait lire la faute. Et alors imaginez, parce que moi, ils auraient frappé sur le rocher au lieu de parler au rocher, pourquoi ils... Et c'est pas du tout ça que la Torah veut dire. La Torah dit, parce que vous ne m'avez pas sanctifié au moment de cet épisode où la Torah raconte que Moshe a frappé le rocher au lieu d'eux. J'ouvre une parenthèse là. Kilo qui l'achetait mes chemises. Dieu ne dit pas Moïse parce que tu as frappé le rocher au lieu de parler. D'autant plus que la première fois, il avait demandé de frapper. Et que si vous comprenez bien l'hébreu, vous savez que c'est la même racine qui veut dire parler et frapper. D'ailleurs, vous avez mis tout à fait dans la slicha que je vous ai donnée. Reprenez-la. Giboretzahar, Yedaberu Bekol. Cette même racine de Yedaber existe dans la version des psaumes. Yadber Amim Tartenu. Est-ce que c'est clair? Pour les hébraïsants. Okay. Alors on pourrait lire Gibore Tzahal Yedaberu dans le sens de Yadberu Bekol. Il suffit que Tzahal ouvre la voie et puis les ennemis s'évanouissent. Vous connaissez le proverbe hébreu. Akesef Yahane et Akol Bekouf. Ça c'est pour les Hazanim. Bien, alors je reviens au. Je reviens au sujet. Ça veut dire que, voilà l'enseignement de Maïmonide. Maïmonide dit, et c'est un enseignement très classique, que c'est le fait que Moïse se soit mis en colère, c'est dans le fait que Moïse se soit mis en colère que consiste sa faute. Est-ce que c'est clair? Bon. Et cette thèse de Maïmonide est une thèse classique. Vous la retrouvez d'ailleurs dans le chemin d'après. Parce que nous avons beaucoup de citations dans la Gemara qui expliquent cela. La colère fait évanouir la révélation, la lucidité, le roi HaKodesh, l'inspiration, etc. Et Maïmonide cite ça de façon extrêmement circonstanciée, mais je me souviens d'un enseignement du professeur Baruch qui parlait de cela et qui disait, mais il y a cependant des saintes colères. Et si des fois on ne se met pas en colère d'une sainte colère, on est plus en faute que si on s'était mis en colère. Quand les saints se mettent en colère, ce n'est pas une colère faute, c'est une sainte colère. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais raconter un souvenir qui me revient de la guerre. Je me souviens qu'à ma première permission de soldat au front, j'étais à l'arrière et je voyais un film d'un documentaire sur les bombardements de Londres. Et dans ce film documentaire, on voyait une espèce d'officier ou de sous-officier, je ne sais pas pourquoi j'ai dit espèce d'ailleurs, dans ce film, qui réagissait à un bombardement en disant « Mon Dieu, garde-moi dans cette colère !» Parce qu'il était en colère de voir le bombardement de sa maison. C'est un souvenir qui me revient. Alors, il est bien évident que c'est parfois parce qu'on n'est pas capable de sainte colère de ce genre qu'on laisse faire des crimes énormes. Okay. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Par conséquent, le professeur Baruch expliquait que cette explication de Maïmonide n'arrive pas à complètement élucider la question qu'il avait lui-même posée. Quelle pouvait être cette faute de Moïse qui fait que il n'est pas en train d'aller à Israël? Et alors, est-ce que c'est clair la question? On n'est pas encore sur la réponse. Et alors, la réponse est de cet ordre. C'est que chaque fois que le peuple avait fait une faute, Moïse intercédait et obtenait le pardon. Et que cette fois, Moïse n'intercède pas et et qualifie le peuple de rebelle. Shimona Amorim Aminasela Aze Nosilachem Maïm. Que ce soit en parlant ou en frappant. Okay. J'ai pas traduit pour pas qu'on reste dans la parenthèse trop longtemps. Alors ça veut dire que Moïse ne peut plus être celui qui dirige ce peuple. Il est trop haut pour eux. Il n'a plus la patience qu'il faut pour les supporter. Est-ce que c'est clair? Alors, tout à fait autre chose. Vous avez compris? Et donc, il doit donner le relais à un Moïse plus bas qui s'appelle Josué. Vous avez compris. C'est pas du tout une faute de Moïse au niveau des actes, c'est que son être est trop haut pour le niveau auquel le peuple descend. Or, ça se passe au moment où il va entrer en Israël. Le peuple, au niveau du Sinaï, est très haut, il est aussi haut que Moïse. Et il faut qu'il descende, qu'il descende, qu'il descende pour rentrer dans l'histoire. Alors, au moment où le peuple rentre dans l'histoire, eh bien, c'est Josué qui doit le conduire, Moïse n'est pas fait pour ça. Je ne sais pas si c'est clair ce film. Alors, c'est cet épisode-là qui apparaît dans cette péripétie. Vous avez compris le problème. Et en particulier sur ce point, qui est cité par les commentateurs, surtout dans la Kabbalah, que dans cette fois-là, Moïse n'a pas prié. Alors c'est là que Dieu dit, c'est pas toi qui les feras entrer. Tu ne peux plus prier pour eux. Et il faut se mettre un peu à la place de Moïse. Hein? Oui. Et, à un moment, il a dit, d'aïma.
Moïse raconte, Hanan et Lachem, okay. Il a bien prié.
Ah, il a cru qu'il y a, plus tard, dans le Harim, il a cru qu'il y avait annulation de la Xéra parce que Dieu lui a demandé de diriger la conquête de l'en-deçà du Jourdain, de la Transjordanie. Okay? Et comme à un certain niveau, la Transjordanie fait partie des Rêtes d'Israël, il s'est dit donc que la Xéra a été levée, puisque c'est moi qui dois faire la conquête de la Transjordanie. Alors pourquoi pas aussi la Cisjordanie? C'est comme ça qu'a raisonné Moïse, dans Baït Hanan. Okay? Et alors, bon, c'est un autre problème. Vous voyez qu'on a du pain sur la planche. Alors, je reviens au sujet. Je veux quand même vous raconter ce midrash qui est dans Vezot Abracha. Le midrash qui est dans Vezot Abracha, c'est que au moment où est arrivé le moment où Moïse devait rendre son âme, eh bien l'âme de Moïse ne voulait pas quitter Moïse. Alors, il y a un dialogue qui est raconté dans le midrash entre l'ange de la mort et l'âme de Moïse, qui est très pathétique, et l'âme de Moïse démontre à l'ange de la mort qu'elle n'a fait aucune faute. C'est pour ça que je relis à votre question. Qu'elle a fait aucune faute. Et elle se compare au mérite d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tous les grands. On peut trouver le défaut de la cuirasse, si vous voulez, si j'ose dire, ou le talon d'Achille, et l'âme de Moïse, imperturbable, dit « Choum d'avoir ». Alors l'ange de la mort ne sait plus quoi faire. Il a été envoyé en mission. Il se tourne vers le bon Dieu, il dit « Aide-moi », il ne veut pas. Alors, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse et qui lui dit « Tu as fait une faute. » Laquelle ? Tu as tué l'Égyptien. Alors oui, ça n'a rien à voir avec le rocher. Hein? Tu as tué l'Égyptien. Regardez la profondeur morale de ces midrashim. Qu'est-ce qu'on reproche à Moïse ? D'avoir tué l'Égyptien. Alors Moïse qui répond, comment j'ai tué un Égyptien? Mais toi, tu les as tués tous. Alors Dieu répond, oui, mais moi je peux les ressusciter et toi tu ne peux pas les ressusciter. Alors Moïse a dit, ah, et son âme est partie. Ça c'est la version sfarade. La version ashkénaze, Moïse a dit, oh. bon, alors, Si on réfléchit à ce midrash, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un thème inattendu qui apparaît, c'est la condition du salut d'Israël. Mais voilà qu'il y a une clause encore beaucoup plus profonde, étant donné que la condition du salut d'Israël, c'est la disqualification de ce qu'était la civilisation antérieure, alors c'est pas Moïse qui, lui, a été celui qui a fait sortir Israël d'Égypte, qui peut les faire entrer en Israël. Il faut un Moïse de l'histoire qui s'appelle Josué, et pas un Moïse du désert qui s'appelle Moïse. Est-ce que c'est clair celui-là? Voilà pour répondre sur cette question. De quelle question on était parti? Oui. C'est ça. Eh bien, ce que je vous ai répondu, c'est qu'en réalité, il n'y a pas eu de faute. Est-ce que c'est clair? En réalité, il n'y a pas de faute. Donc, il n'y a pas question de... Encore une fois, c'est pas un drache, hein, la réponse que je vous ai donnée. J'ai énormément de citations en tête, mais ça nous ferait ouvrir trop de parenthèses. Il n'y a pas de faute chez Moïse. Et il est kitov, il n'est pas de tovara, il n'est que de tov. Et lorsqu'on croit qu'il a fait une faute, et que, etc., c'est qu'on croit. En réalité, il n'y a pas de faute. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une situation où, si vous voulez, pour garder, mais vous n'étiez pas là, ce qui n'était pas l'introduction, il faisait trop de temps, je le dis brièvement pour les autres, il faut revenir à ce principe, c'est pas du tout une faute au niveau de l'acte, c'est une faute au niveau de l'être, mais pas du tout au niveau de l'acte. Est-ce que c'est clair? Mais c'est pas de sa faute que Moïse soit Moïse, quand Israël est trop bas. Est-ce que c'est clair? C'est pas du tout de sa faute, intentionnellement, j'y sens français, faute. Bien. Alors, on aborde maintenant le deuxième sujet, si vous voulez. Voilà, dans notre texte, je vois qu'il me reste peu de temps. Hein. Il nous reste un quart d'heure. Alors, je voudrais vous quand même que nous lisions un texte de Rosh Hatshuva. Vous savez, on le lira demain en hébreu. Vous êtes invités, donc, demain. Et dans notre texte, il y a essentiellement un verset que je voudrais que nous lisions ensemble, c'est le verset 30 du chapitre 16. Et c'est un verset qui va renforcer encore tout ce que nous venons d'apprendre. C'est un verset important dans la liturgie du jour de Kippour. Vous l'avez sous les yeux, verset 30 du chapitre 16. C'est-à-dire, car en ce jour-là, c'est le 10 de Tishri, le jour de Kippour, Yechaper Alechem sera expié sur vous, pour vous, pardonné sur vous, pour vous, et c'est là que est le principe du comportement collectif de cette liturgie au niveau de la collectivité, c'est-à-dire dans la mesure où vous participez de cette collectivité, c'est le jour qui expie pour vous. Qui baille au mazé, il rappelle à l'échem, les taïretrem pour vous purifier. Il y a plus que recouvrir la faute, kapara. Il y a tahara de la faute, pour vous purifier de la faute. Mikol chatotechem, de toutes vos fautes, l'ifne Hachem, kitaharou, devant Hachem, vous serez purifié. Alors là aussi, je me réfère à quelque chose que nous avons appris dans l'introduction, c'est qu'il y a un événement historique, un distichri. Au niveau de la génération du désert, de l'histoire de la génération du désert, c'est le jour où les deuxièmes tables ont été rendues à Israël. Je vous rappelle que les premières tables ont été détruites le 17 Tammuz. Ensuite, il y a 40 jours où Moïse prie pour que le Erevav soit pardonné et intégré à Israël. On arrive au premier Elul. Et ensuite, il y a 40 jours du premier Elul au 10 Tishri où il reçoit les deuxièmes tables. Et c'est donc le 10 Tishri que pour la première fois il y a eu un événement, l'expérience d'un événement qui a fait comprendre que bien qu'on reçoive la Torah, on n'est pas perdu si la Torah est violée, la kapara est possible. Est-ce que c'est bien clair? D'où l'importance du jour de Kippour pour la collectivité d'Israël. À l'échelle individuelle, il est bien évident que la kapara, la tshuva, peut se faire n'importe quel jour, elle doit se faire n'importe quel jour, elle se fait. Mais la participation collective, le jour de Kippour pour la collectivité d'Israël, fait que on est dans ce cas historique que le jour fait jouer le mérite de l'événement de ce jour-là. L'événement du 10 Tishri, c'est que les deuxièmes tables ont été rendues. Quelle est la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? Les premières tables, c'est « voici la loi ». Et celui qui viole cette loi a violé sa charte d'identité et n'est plus Israël. On est perdu. La deuxième table, c'est la preuve que voici la loi. Et celui qui aurait violé la loi, faute, peut être réintégré dans l'identité Israël. Les deuxièmes tables ont été rendues après la faute. Grâce au fait que le mérite de la tshuva a été récapitulé au niveau de Moïse, c'est le grand prêtre qui prend le relais chaque année. Je voulais insister là-dessus, sur cette notion de le rite collectif fait que c'est le jour même qui a ce pouvoir. Et je crois que, instinctivement, les juifs ont compris ça. Même ceux qui ne font plus rien, ils sont des juifs de Kippour. Et ils ressentent ça de manière peut-être plus profonde que jamais aucun enseignant peut l'enseigner avec des mots. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là. Ils ressentent ça. Que là, on est protégé dans la mesure où on est relié à la collectivité le jour de Kippour. C'est ce que le verset dit. Et alors, je voudrais très rapidement dire quand même quelques mots sur l'ensemble du texte. Et je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas là hier au cours de Koujavski sur le bouc émissaire. Je j'aurais voulu reprendre ça pour les autres, mais on n'a plus le temps. Alors, en tout cas, quelques mots. Il y a deux boucs, et les deux sont sacrifiés, mais les deux de manière très différente. Un, dans le pauvre, pour en dire français, dans le pauvre, l'opprobre, je ne sais plus parler français grâce à Dieu. Donc, un, comme ça, dans le déshonneur, jeté dans le désert, et s'il revient, il revient, mais il ne revient pas. Et puis, l'autre, avec l'honneur d'être le bouc de l'expiation dans le temple, le Seder Ahouda. Le Seder Ahouda, qui est la liturgie la plus extraordinaire de l'ensemble de les liturgies de la Torah. Et que l'on récite à Moussaf de Kippour, qui est le moment le plus exceptionnel de la Avoda de Kippour. Or, avant d'arriver à ce que je vais vous dire sur ce verset, gardez ça en tête, j'étais très impressionné par un article du docteur Eldad, Israël Eldad. Les nouveaux Orlim ne savent pas qui il est, mais enfin les anciens savent que c'est quelqu'un de très important dans la pensée juive israélienne. C'est pas du tout un rabbin, mais c'est un grand penseur de la tradition juive israélienne. Il a un hébreu magnifique d'ailleurs. J'ai lu un article que vous avez peut-être lu, je vois que tu as sauté, dans le Moussav de Yedirot HaOnot de Rosh Hashanah. Il commence d'ailleurs par mettre l'accent sur une des idées que j'ai analysées, le fait que le vidouille est d'ordre collectif, et puis il dit, il manque dans ce vidouille, au fond, l'aveu essentiel que nous devrions faire après le bilan de 2000 ans d'exil. Et ça continue. On n'a jamais demandé pardon, on n'a jamais fait de tchouva, on n'a, comment dire, jamais avoué cette faute collective que pendant 2000 ans, on était en exil. Alors il explique très bien, ça m'a frappé parce que c'est un enseignement qu'il y a dans le Talmud, à propos d'un verset d'Isaïe. Il explique très bien qu'à un certain moment, l'exil devient une faute. Et l'exil est punition de quelle faute? Pas autre que la faute de l'exil lui-même. Est-ce que c'est clair cette idée? Et comme il n'est pas Dayan, alors il peut se permettre de faire des suggestions au Dayanim, et il suggère qu'on ajoute dans le vidouille une phrase pour avouer qu'on a été en faute pendant 2000 ans de ne pas vouloir vraiment revenir en Israël. J'explique ce que je viens de dire maintenant, de ne pas vouloir vraiment revenir en Israël. Parce que pendant tout le temps où c'était pas possible, on était censé être sincère. Que si c'est possible, on reviendrait. Mais dès que c'est devenu possible, ça a dévoilé qu'on n'était pas tellement sincère que ça. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là. Je résume parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je crois que l'idée est claire. Je vous cite Israël Eldad. Et il explique avec des mots terribles à quel point c'est le plus grand crime que notre peuple a pu commettre sur lui-même, parce que ça a été payé de catastrophes épouvantables. Et que ça continue, il dit. Et qu'il demande qu'on institue à Kippour une liturgie pour avouer cela. Et il demande ça au Talmid Chachamim. Il dit que c'est le devoir du Talmid Chachamim de cet aveu. Ça m'a frappé parce que j'avais fait un peu allusion à cela, un peu sous une autre forme, à la conférence que j'avais faite, je ne sais plus quand, la dernière que j'ai faite à Echatsloum. Okay. Mais quand j'ai parlé de Modine de Rabbanan, vous vous rappelez? Vous vous rappelez de cette expression? Et alors, ça m'a donné l'idée de vous parler maintenant de ce que représente dans un enseignement du Midrash cette dualité qu'il y a de deux séhirim, de deux boucs, le plus identique possible. C'est ce qui a été étudié hier par Marc Ujavski, et que un est envoyé dans une histoire catastrophique, alors que l'autre vit la même histoire, mais dans l'honneur. Et que cette histoire assumée, lucide, dans l'honneur, déjà je commence à interpréter, est expiatrice. C'est à propos de l'analogie que le Talmud fait entre Pourim et Kippourim. C'est un problème qu'on a l'habitude d'étudier à Pourim surtout. Je vous signale simplement les dimensions de ce problème. Il y a, selon le Talmud, deux fêtes qui resteront à la fin des temps, c'est Pourim et Kippourim. Et alors, vous voyez le jeu de mots apparent. Pourim, Kippourim. Pourim, c'est comme Pourim. Pourim, Kippourim. Seulement, il faut bien se rendre compte que ça s'étudie. Parce que Pourim, qui Pourim, c'est un mot hébreu, mais Pourim, c'est pas un mot hébreu. Le mot hébreu, c'est Goral. Pour, c'est un mot persan. Au pluriel hébreu, ça fait Pourim. Et seulement, on trouve le mot de Goral et dans la Megillat Esther, et à propos de Kippour, dans notre liturgie de ces deux Seyrim. On tire au sort celui qui va être envoyé dans le désert et celui qui restera dans le temple pour le sacrifice, dans l'honneur, si je veux dire. Et alors, qu'est-ce qui était arrivé avec le sort à Pourim, la fête des sorts d'ailleurs, c'est que Haman avait tiré au sort quel jour il détruirait Israël. Et en fait, donc, c'est ce terme de Goral qui est commun, et là, je regrette de ne pas avoir suffisamment de temps, mais je vais vous donner le schéma explicatif lui-même, vous direz si c'est suffisamment clair. C'est que finalement, nous avons un enseignement très important. Depuis que le temple a été détruit, c'est l'exil qui assure l'accapara qu'assurait le temple. Est-ce que le principe vous est clair, Ken? Et alors, voyez déjà la comparaison. Or, il y a deux manières d'être en exil pour Israël. À la manière du bouc émissaire qu'on aura dans le désert, on ne sait plus où il est, il ne sait pas qui il est. Disons l'exil des 10 tribus perdues, par exemple. Ken. Ou bien, à la manière du bouc qui est sacrifié dans le temple, j'ajoute plus rien en français parce que ça va gâcher la comparaison en hébreu. Ken. Et pendant la guerre, pendant le temps du nazisme, j'ai compris ça assez existentiellement. Quand le nazisme s'est déclenché, tous les juifs ont été touchés. Tant les juifs conscients que les juifs assimilés. Les juifs assimilés, eh bien, ont ressenti cela de manière beaucoup plus grave que les juifs conscients. Pour les juifs conscients, c'était un paroxysme de choses familières. Un paroxysme, mais de choses qui font partie de l'identité d'exil. C'est l'exil qu'on peut assumer, qu'on peut maîtriser, parce qu'on est conscient du sens de sa propre histoire. Mais un juif assimilé, c'est le tragique au 13e degré. Mais pourquoi moi? Je comprends très bien pour le juif de la synagogue, mais moi qui ai fait tout ce que j'ai pu, enfin lui, pas moi, qui ai fait tout ce que j'ai pu pour que ça ne m'atteigne pas, et ça m'atteint. Les juifs assimilés ont vécu ça plus tragiquement que les juifs pieux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. En particulier, je me rappelle des épisodes en Autriche. Le nombre d'intellectuels juifs qui se sont suicidés. La communauté juive autrichienne était très assimilée, je ne sais pas si vous savez, assez bon, dans les années 30. Mais ils ont reçu ça comme une espèce de tragédie épouvantable. Je donne ça comme exemple de cette différence. Finalement, le Midrash qui dit que Haman n'arrivait pas à trouver, en jetant les sorts, un jour où il pouvait atteindre le mérite d'Israël, parce que chaque jour de l'année, chaque mois, chaque jour du mois, il y avait le mérite d'un grand tzaddik d'Israël. Quand il est tombé le 14 Adar, qui est donc le jour de la pleine lune du mois de Adar, le mois de Adar est le mois où Moïse a quitté la terre, alors il s'est dit, bon là, Israël sans Moïse, là je peux les atteindre. Okay? Je vous résume ce Midrash. Et le Midrash ajoute, mais il ne savait pas que c'était le même mois où Moïse était né, d'ailleurs le même jour, et qu'il y a une permanence éternelle de la Torah de Moïse en Israël. Il a pensé l'histoire d'Israël à la manière de l'histoire des nations, commencement, apogée, fin, il a cherché la fin, il a cru la trouver, et c'est la fin de l'année, Adar, avant Nissan, Ken. Ça, je vous cite sans citer en détail le Maharal, eh bien, il a cru que là, il allait atteindre Israël, Israël sans Moïse. Et alors, il y a un Midrash corollaire qui dit que Mardoché, qui était le chef de la communauté, était désespéré, et puis il marchait dans les rues du ghetto, et puis qu'il passe devant un petit Talmud Torah, où il entend une discussion de deux petits étudiants du Talmud Torah, alors que la ville était vers Eir Shushan Nabocha. La ville était dans le désespoir. Deux petits enfants du Talmud Torah qui discutent très sérieusement pour savoir quelle est la longueur de la gerbe du Homer qu'on offrait à Moussa, pendant que le ghetto était en folie. Alors Mardoché était rassuré. il a dit avec cette Torah, on est invincible. Vous avez compris le Midrash. C'est ce qui arrive à Aman. Il s'est pas rendu compte qu'il n'y a pas de fin en Israël. À partir du moment où le cycle des 120 ans de Moïse s'achève jour pour jour, il devient éternel. Et bon, ça, je schématise beaucoup ce Midrash. Quel est le Goral qui va choisir entre ces deux manières d'être dans l'exil? La partie d'Israël qui s'est perdue, les 10 tribus perdues, la partie d'Israël qui s'est conservée et qui vit le Seder Avoda dans le temple, alors que l'autre le vit aussi, mais comme le Sarer l'Azazel, est-ce que c'est clair la comparaison, Ken? Eh bien, c'est qui reste fidèle à la Torah, qui ne reste pas fidèle à la Torah. La royaume de Judée, qui restait fidèle à la Torah, a vécu la même histoire que le royaume d'Israël, qui n'était pas resté fidèle à la Torah, mais dans le temple, alors que l'autre l'a vécu à la manière. Je voulais vous montrer la différence. Quel est ce goral qui peut sembler apparemment mystérieux? C'est pas du tout mystérieux. Dans la destinée de l'exil qui remplace le sacrifice. Pas du tout mystérieux. Le goral, c'est l'option de la Torah. Est-ce que c'est suffisamment clair? J'ai parlé vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. On peut se dire, mais pourquoi cette différence, en fait? Il y a une raison qui n'est pas du tout mystérieuse et qui est très claire. Ce que je veux dire, c'est ceci. Nous sommes maintenant dans un temps de rassemblement de ces deux manières d'être juifs. Et ceux qui le sont sans l'être, et ceux qui le sont en l'étant. Je ne sais pas comment le dire. Et là, il y a peut-être aussi un paradoxe. Peut-être que le mérite de la tchouva de ceux qui étaient les juifs assimilés est plus grand que le mérite de la tchouva de ceux qui étaient les juifs pas assimilés. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là, mais je crois que c'est clair quand même. Il y a une espèce de paradoxe. Nous sommes dans un temps de rassemblement de ces deux manières d'être Israël. Celle qui l'était à la manière de l'ancien royaume d'Israël perdu comme le Sarer l'Azazel, et celle qui l'était à la manière du royaume de Juda, se connaissant, sachant qu'il est vivant l'histoire de la Kapara, mais la vivant dans le Seder Avoda, alors que les autres la vivaient, mais la vivaient dans le... ça m'est très difficile à exprimer, parce que je ne l'ai pas expérimenté, sinon par sympathie, ou par empathie, si vous voulez, mais le vivant dans le non-sens absolu. Mais nous sommes une génération qui a connu ça, que ceux qui sont revenus, sans savoir d'où ils venaient, où ils allaient, et pourquoi ils revenaient, et où. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous dire que l'expression de Baal Shua aujourd'hui, elle est mal employée. Baal Shua, du point de vue de la halakha, un Baal Shua, c'est un tzaddik qui avait fait une faute et qui se repent. Alors que les Baal Shua d'aujourd'hui, c'est pas du tout des Baal Shua selon la halakha. Okay? On les appelait d'ailleurs les Hozrim Shua, et c'est un barbarisme. Okay? En réalité, c'est des revenants, c'est pas du tout des repentis. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est autre chose. C'est moi, je te rebelle. Quoi. Ghost. C'est-à-dire, c'est cela qui est joué. C'est cela qui est joué dans la scène de cette Kapara. Mais ce que je vais indiquer, par la comparaison qui nous est donnée avec l'exil, et je vous citerai d'ailleurs juste pour cette comparaison, si on a encore juste une minute, c'est que ce Goral n'est pas ce que nous croyons, nous, on tire au sort, un hasard. Ce goral, ce qui fait que le goral, la destination, je n'ai pas dit le destin, on ne l'a destiné même pas, la destination de chacun est tellement différente, a un sens. C'est dans la mesure où on est relié à la Torah, dans la mesure où on n'est pas relié à la Torah. C'est ça qui est joué par le Kohen Gadol au moment du goral. Et très peu de rabbins. Je veux dire une chose que peut-être j'aurais pas dû entreprendre, mais puisque ça m'est venu, je vous le dirai. Très peu de rabbins savent donner un goral. Mais ça existe encore. C'est-à-dire qu'on pose une shéla à un rav, et il répond par le goral. Et je vous dirai pas comment il fait. Okay? Il répond par le goral. On croit que c'est sort, hasard, pas du tout. C'est, il répond d'après ce que la Torah dit du cas. C'est un peu dans ce sens-là. Vous savez qu'il y a dans des civilisations en particulier, en Amérique du Sud et dans la civilisation chinoise, il y a des techniques d'interrogation du calendrier qu'un occidental appellerait le hasard, le goral, mais qui sont des techniques d'une certaine sagesse qui répond en posant d'une certaine manière des questions au calendrier. J'espère que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Eh bien, par exemple, peut-être vous entendrez ça, vous lirez dans des livres de Chassidim, on pose une question à un rabbi, il prend son tanar, il ouvre, il regarde un mot, il dit voilà la réponse. Personne n'aurait compris comment il a fait, okay, mais c'est la réponse. Donc, alors, je ferme la parenthèse. Voilà, on va prendre 5 minutes de détente. À 8 heures, donc 5 minutes, on fait un bit. Soyez mignons, qu'on est un mignon. Okay. Et puis, juste après un bit, il y aura donc le cours. Attendez, je m'embrouille encore. C'est quel cours de Radio Sérazoum qui aura lieu. Je vous en prie. Mais pas dans le chat, une minute. Une minute, je vous en prie. Rapidement, quel okay. Ah, c'est trop long. En tout cas, je connais Daber et Mouba, mais Kfar et Kapara, il faut le chercher. Donc, il me semble que Kfar, c'est de l'arabe.